On s'en va rejoindre au bout du fil David Goudreau. Bonjour, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi de même.
Oui, ça va bien aussi. David, on va parler de moi-même, un super encan bénéfice au profit du CAP, qui est le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal, où les artistes ont dû faire un autoportrait. C'était comment cet exercice-là pour toi?
Ben, c'était super intéressant, puis surtout pour une bonne cause. Moi, je suis pas un artiste en art visuel, je travaille plutôt avec les mots. Et finalement, ben, moi, c'est l'angle que j'ai pris, hein. J'ai écrit un poème, puis je l'ai stylisé un peu. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Ça partait à 150, il est déjà rendu à 630. Donc,
Wow.
voir que mes mots peuvent contribuer à la promotion d'une bonne santé mentale, ça me fait plaisir. Puis probablement que je vais me laisser tenter aussi, parce que je suis allé voir sur la page de l'encan, puis il y a des œuvres magnifiques, même du Michel Tremblay à travers ça. Puis il y a des artistes que je connais moins, mais qui ont un très, très grand talent. Donc, je pense que c'est le secret de cette initiative-là, c'est de mélanger un côté très philanthropique, donc une bonne cause, puis en même temps, carrément artistique. C'est de véritables œuvres d'art qui ont, je crois, une valeur en elles-mêmes. Donc, probablement qu'ils arrivent à ratisser assez large avec ça. Une magnifique idée, du Cap.
Est-ce que c'est oui tout de suite parce que les arts visuels, tu l'as dit, c'est pas la passion première. Est-ce qu'on dit oui tout de suite à un défi comme celui-là?
Ben oui. Cette année, c'est sûr que oui, parce que j'avais participé il y a déjà quelques années de ça, puis ça avait été une très belle expérience. Puis surtout, en fait, même si, bon, je me prends pas pour un artiste ou un peintre, quelqu'un, ben, je me prends un peu pour un artiste des mots,
Oui, mais oui.
un artiste en art visuel. La cause m'est très chère. Moi, je suis porte-parole pour le mouvement Santé mentale Québec. Je suis travailleur social de formation. Donc, je me dis, écoute, je vais prendre le risque. Je vais m'exposer, même si c'est pas mon médium habituel, ne serait-ce que pour soutenir une cause super importante. Puis, en plus, le CAP travaille aussi au quotidien avec les arts. Il y a de l'art thérapie qui se fait là. C'est significatif. Puis, ça permet aussi de rappeler que c'est une façon de s'exprimer l'art, c'est un moyen d'expression, c'est un outil de résilience jusqu'à un certain point, puis on n'a pas besoin d'être bon pour utiliser ça. Là, on se force parce qu'on veut ramasser des sous pour une bonne cause, mais au quotidien, je pense qu'en ce moment, c'est une bonne idée de se rappeler que on peut aussi exprimer les tensions vécues à travers le confinement, puis tout ça, par l'art. Chacun de son côté. Voilà.
Est-ce que ça t'a donné le goût à l'art visuel un peu plus ou pas?
Ben oui, c'est quelque chose qui m'intéresse si j'arrive à me libérer un peu de temps, malgré le confinement, étonnamment, je suis assez occupé. Mais le fait de m'arrêter pour faire cet exercice-là spécifique, ça a vraiment été super intéressant. J'ai beaucoup aimé ça, puis à chaque fois, ça me dit, ah, c'est quelque chose que tu devrais explorer davantage. Mais ça, c'est un peu comme tout ce qui nous fait du bien pour vrai, hein, dans la vie. Souvent, ça va passer en dernier.
Ouais.
La vaisselle, les projets, la job, la famille et tout. Des fois, il faut se le rappeler que prendre soin de soi, c'est une bonne idée. Puis c'est aussi une façon de prendre soin des autres. Parce que quand nous, on va bien, quand nous, on a une bonne santé mentale, ben, probablement que tout le monde autour de nous en profite, là.
T'es beaucoup impliqué à la cause de la santé mentale. Évidemment, la pandémie, c'est quelque chose qui bouscule beaucoup la santé mentale. C'est beaucoup de familles, beaucoup de gens. Il y a des annonces qui sont faites, évidemment, par les paliers du gouvernement. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, tout ce qui se passe?
Très, très bon œil. Il y a des super bons investissements qui sont faits. En même temps, moi, j'espère que il y a une prise de conscience qui vient avec, en fait, qu'il faut être attentif, oui, à la santé mentale en situation de crise, en confinement, mais à l'année longue, et que il va y avoir des sous qui vont être mis en promotion, prévention, et des sous qui vont être récurrents aussi, parce qu'il faut savoir que les impacts de la crise risquent de se faire sentir assez longtemps au niveau de la santé mentale. Même moi, je suis curieux de voir quels seront ces impacts-là sur les jeunes. Les enfants, les adolescents qui vivent ça aujourd'hui, ça risque de changer leur rapport au monde. C'est une crise mondiale exceptionnelle. Du jour au lendemain, on peut tout arrêter comme ça, puis les priver de relations sociales. Ça doit imprimer quelque chose d'assez particulier aussi dans la psyché. Donc, c'est un souci qu'on a. Moi, je porte parole pour le mouvement Santé mentale Québec. Puis, ce qu'on porte comme message, c'est l'importance de prendre soin de soi, pas juste auprès des personnes qui ont des troubles de santé mentale, qui ont des diagnostics, puis de la médication et tout. Là, la santé mentale, ça concerne tout le monde. Puis en ce moment, c'est normal d'aller moins bien. Puis ça se pourrait qu'il y ait des gens qui allaient mal la semaine dernière, qui vont un peu mieux cette semaine, des gens qui vont bien cette semaine, qui vont aller mal dans deux semaines, dans trois semaines. C'est quelque chose de fluctuant. Il y a des outils qui fonctionnent, qu'on peut mettre en place, qui peuvent fonctionner de façon récurrente, mais pas tous. Puis il faut s'accueillir là-dedans. Puis il faut accepter que c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'on vit, puis qu'il va y avoir des réactions exceptionnelles. Puis peut-être qu'il y en a qui vont, de ces réactions-là, qui vont émerger dans le temps. Donc oui, tant mieux, on se préoccupe de la santé mentale, tant mieux, on investit. Mais est-ce que dans 6 mois, ce sera encore le cas? Moi, c'est là ma préoccupation principale.
Tu parlais des jeunes. Récemment, tu as fait une commande culturelle pour un beau jeune, un jeune qui a décidé de faire des changements dans sa vie pour protéger sa famille. Comment c'était cette rencontre virtuelle-là pour toi?
Ben, c'était génial. Puis surtout, moi, il me manque les ados. Je fais beaucoup d'ateliers, de conférences dans les écoles. Puis il y a des espèces de préjugés parfois qu'on a par rapport aux ados qui sont juste bons pour pitonner puis qui ne s'intéressent pas à l'angle. Puis tout ça. Puis c'est vraiment pas vrai. On a des jeunes super allumés, sont conscientisés, sont politisés. Puis ce jeune-là, donc effectivement, qui travaille encore dans une épicerie, qui a déménagé pour protéger ses grands-parents et tout ça, c'est un jeune fort admirable. Fait que c'est un plaisir de lui rendre hommage. Puis en même temps, ben ça me permet de faire un lien avec une autre association que j'ai en ce moment avec le Centre RBC d'expertise en santé mentale, qui est associé avec des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui ont un Instagram hors-piste explo, puis qui s'adressent eux directement aux ados. Ils sont en train de développer vraiment une expertise. Ils offrent des ateliers de méditation en ligne, des conversations, des rencontres avec des intervenants et tout, pour prendre soin de la santé mentale des ados spécifiquement. Faut savoir que dans les dernières années, les statistiques qu'on a vues étaient un peu inquiétantes, là. On a presque doublé les hospitalisations pour tentatives de suicide, sans nécessairement que le nombre de suicides a augmenté, puis qui de façon alarmante, mais ça indique quand même une certaine détresse, puis on sait que les jeunes vivent beaucoup d'anxiété, entre autres en lien avec les fameux médias sociaux, hein. Il y a un filtre très, très intense pour eux, là. Leur vie est exposée à travers ça, puis ça met une certaine pression. Voilà, donc j'ai ce souci-là, moi, effectivement, de rendre hommage à nos ados qui sont l'avenir du monde, finalement.
Oui. Tu avais des spectacles, évidemment, qui s'en venaient. Tout ça s'est arrêté. Comment tu as vécu ça, cette période-là d'annulation d'événements pour toi?
Oui, ça fait mal, pas mal, pour être honnête.
Oui, c'est sûr.
Faut dire que j'avais des dizaines de spectacles prévus qui sont, pour la plupart, annulés. Quelques-uns sont reportés, mais là, même reportés, on ne sait pas si ça va avoir lieu. C'est, je pense, un grand stress pour tout le milieu culturel, surtout pour les artistes de la scène. Quand est-ce qu'on va pouvoir se rassembler, aller de l'avant? On ne le sait pas dans les faits. J'avais aussi une tournée au Mexique qui a été annulée, présidence de Salon du Livre et tout. Donc, pour être honnête, c'est assez désastreux là, d'un point de vue de mon agenda artistique. Heureusement, mes romans se vendent bien. Il paraît que je suis une valeur refuge en temps de crise, donc les romans vont compenser un peu, mais c'est pas comparable. D'un autre côté, c'est correct. J'avais quelques économies, ma famille va bien. Moi, je pense à toutes les familles qui ont été éprouvées, toutes les personnes âgées qui sont privées de leurs proches. Je suis pas à plaindre. Sauf qu'en même temps, je suis pas à plaindre, mais ça fait mal quand même. J'ai l'impression que tout le monde vit une période anxiogène, une période de stress. C'est à géométrie variable d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Disons, moi, pour l'instant, c'est encore tolérable. Mais il ne faudrait pas que ça s'étire sur plusieurs mois encore.
Ouais.
Parce que je commencerai à ronger mes freins de façon plus significative. Disons-le comme ça.
Quand on est créateur, on fait face à cette crise-là. Il y a deux façons, de ce que je comprends en discutant avec différents artistes. Il y en a qui ont gelé, qui sont pas capables d'écrire. C'est trop un grand vide ce qui se passe. Et il y en a d'autres, au contraire, qu'avec les semaines, ça les a poussés à créer en se retrouvant tout seul, en libérant l'horaire. Dans quelle zone tu te situes, toi, là-dedans?
Quelque part, entre les deux, j'ai eu des contrats de création des chroniques quand même qui m'ont gardé au travail par rapport à l'actualité. Donc, j'écrivais un peu à chaud sur ce qui se passait. J'ai pas encore eu de recul par rapport à la crise là, pour vraiment écrire quelque chose de pertinent spécifiquement là-dessus. Par contre, pour moi, c'est clair que c'est pas un contexte favorable à la création. Parce que même si on a plus de temps disponible, l'esprit est mobilisé. Puis dans le fond, pour être efficace dans un projet artistique, j'ai l'impression que il faut ramasser, oui, du temps, mais surtout une disponibilité psychique. Il faut que l'esprit ne soit pas trop inquiet, finalement. T'sais, moi, j'ai l'impression, en tout cas, de la façon dont moi je le vis, de traîner un boulet, de pas savoir où s'en va la carrière, la vie, mes enfants par rapport à l'école, tout ça. Donc, il y a une espèce d'inquiétude lourde, un peu permanente. Je comparerais ça à une douleur. T'sais, c'est difficile de travailler quand t'as une rage dedans. Là,
ouais.
Je le vois un peu comme ça. C'est comme s'il y a quelque chose qui me préoccupe toujours et qui m'empêche de vraiment plonger dans mes projets plus personnels, pour l'instant. On verra dans le temps comment ça se passe, mais pour l'instant, c'est comme ça.
Ton plus récent roman, Ta mort à moi, est finaliste au prix littéraire France-Québec 2020. Est-ce que c'est flatteur, ça, quand ça arrive?
Ben oui, c'est magnifique. Surtout que le roman va être publié justement en France à l'automne. Donc, le fait que ce soit dans les trois finalistes au prix France-Québec, ça augure bien pour l'accueil qu'il pourra recevoir là-bas. Puis, en même temps, juste le fait d'avoir été présélectionné déjà, ça me réjouissait. De me retrouver dans les finalistes encore plus. C'est sûr qu'on espère toujours gagner, mais d'un autre côté, pour avoir fait partie de jury, entre autres pour des prix de poésie, des choses comme ça, c'est tellement subjectif, puis c'est rarement le coup de cœur des juges qui gagnent. C'est toujours... l'art, c'est particulier, t'sais. Puis je reviens toujours avec l'exemple des prix Nobel. Quand on regarde la liste des prix Nobel, il y en a plusieurs qu'on se dit, ben oui, évidemment, puis il y en a plusieurs qu'on se dit, mais qui c'est ça?
Ouais.
Il y en a d'autres qu'on est bien étonné de ne pas voir dans la liste. Donc, c'est quelque chose de très relatif, finalement, les prix. Moi, j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns. Il y en a que j'ai pas gagné, que j'espérais. Donc, j'essaie de prendre ça toujours avec un grain de sel. Je me dis, bon, écoute, tant que ça fait parler du livre, ultimement, on n'écrit pas pour gagner des prix, puis même pas pour en vendre tant que ça. C'est pour être lu. T'sais, tant mieux quand on a un succès de librairie. Moi, j'ai eu beaucoup de chance les dernières années. Mais l'idée, c'est surtout d'être lu, puis d'être compris à travers la lecture. Moi, j'ai surtout vendu des romans dans les dernières années, mais j'ai publié aussi des recueils de poésie qui, d'emblée, de toute façon, la poésie se vend beaucoup moins. Et au Québec, c'est une réalité, même si les ventes ont augmenté substantiellement dans les dernières années. Mais il y a quelqu'un qui a lu un de mes recueils de poésie des dernières années qui m'a écrit une lettre de 9 pages.
Wow.
Où il m'expliquait vraiment comment et pourquoi il avait connecté avec mes poèmes, comment c'était venu chercher, quel poème, pourquoi. Puis je me suis senti vraiment compris dans ma démarche littéraire, dans ma démarche poétique par rapport à un lecteur. Mais ce lecteur-là, très honnêtement, il vaut 10 000 ventes, là.
Ben oui.
Je suis prêt à vendre beaucoup moins pour avoir des lecteurs de cette qualité-là, de cette intensité-là. Puis en même temps, derrière chaque livre qu'on vend, ben on espère qu'il y a quelqu'un qui a au moins du plaisir ou qui nous comprend, pour qui ça résonne dans sa propre vie. Donc voilà, les prix, tant mieux quand on est finaliste, tant mieux quand on gagne. Mais ça sert surtout à faire parler du livre, puis éventuellement à rencontrer d'autres lecteurs à travers nos livres.
Un livre, ça vit en dehors de nous, évidemment, comme auteur. Quand on écrit le livre, après ça, c'est le public qui décide dans toute l'offre lequel il va choisir dans ce qu'il y a. Et quand les gens nous choisissent à travers toute l'offre littéraire, est-ce que c'est flatteur?
Ben oui. Surtout quand on considère la quantité de nouveautés qui arrivent à chaque rentrée littéraire. Je m'en allais dire à chaque année, mais même pas à chaque année. C'est au moins 2 fois par année qu'il y a une quantité astronomique de livres qui rentrent. On parlait par rapport à la France, mais c'est aussi une réalité. Au Québec, on est submergé aussi par la littérature française en particulier. Puis, c'est pas encore l'équivalent de l'autre côté. Nous, on perce moins le marché marché français que le marché français nous perd. Donc, c'est des centaines de nouveautés chaque année. Donc, évidemment, quand un lecteur ou une lectrice choisit notre livre, c'est un privilège, en fait. Je le vois carrément comme ça, c'est un privilège. Puis, probablement que moi, ça me nivelle par le haut aussi comme écrivain, parce que je suis toujours impressionné que quelqu'un prenne quelques heures. Tu sais, là, traverser un roman classique, c'est quand même 4-5 heures là, pour 200-300 pages. Puis moi, ça m'impressionne que quelqu'un me consacre 4-5 heures pour aller découvrir un univers que j'ai créé. Puis ça me force à lire et relire. Puis moi, je suis un obsédé de la coquille. Là. Mon éditrice pourra en témoigner. Moi, jusqu'à la dernière journée, la dernière heure de la dernière journée, je me relis encore. Puis j'essaie d'amener le livre le plus loin possible parce que ça fait partie du contrat, à quelque part, entre le lecteur et l'auteur. Moi, quand j'achète un livre qui me déçoit parce que je vois que les coins ont été tournés un peu ronds, que l'effort n'a pas été soutenu, il y a quelque chose qui m'offense carrément comme lecteur. Donc, quand j'écris, ben, je veux que mes lecteurs, mes lectrices, ils trouvent complètement leur compte. Voilà.
Donc, est-ce que le lâcher-prise est difficile à ce moment-là, si jusqu'à la dernière minute? Est-ce que c'est difficile d'être pleinement satisfait puis de dire « OK, c'est bon, il peut y aller »?
Oui, ben, je pense qu'on ne l'est jamais complètement. Tu sais, puis c'est pas de l'espèce de fausse modestie où j'ai l'impression que pour la plupart des écrivains, comme de tous les artistes, si on fait un lien avec le projet moi-même, je pense que la même chose pour les peintres, les artistes en art visuel, c'est qu'il y a un certain point où faut que tu lâches le projet parce que là, tu fais juste déplacer des virgules ou faire des retouches qui n'améliorent pas tant que ça. Tu peux avoir une certaine satisfaction quand tu arrives au bout de ton projet, que ça ressemble à ce que tu avais en tête quand tu as commencé, mais je pense pas qu'on puisse être complètement satisfait. Moi, ça m'est pas arrivé de me dire qu'il y avait même un texte de chanson, un poème ou un roman qui était parfait. Tu sais, il y a toujours un côté où tu dis « OK, là, c'est le plus loin que je pouvais l'amener. Je suis satisfait, mais c'est jamais... on n'est jamais convaincu, finalement. T'sais, on n'est jamais convaincu de ce qu'on propose. Puis, quelque part, c'est aussi un guess, ou c'est une chance qu'on prend à chaque fois. T'sais, moi, il y a certains de mes projets, j'étais convaincu que ça allait être un succès. Puis, finalement, ça le veut plus ou moins. Puis, il y en a d'autres, OK, on prend une chance. Puis, finalement, c'est ça qui lève, puis qui rencontre son public. Donc, à chaque fois, on remise, puis on essaie de rencontrer notre monde, puis on prend une chance, puis on crée, puis on va à rencontre du monde, finalement, à travers nos œuvres.
Est-ce que le souhait, c'est d'avoir sa couleur qui fait que peu importe le type de projet qu'on fait, les gens qui nous sont fidèles vont nous suivre, ou on n'essaie de pas trop penser à ça?
On n'essaie de pas trop penser à ça, parce que c'est sûr qu'avoir sa couleur, c'est intéressant, puis ça peut fidéliser effectivement un certain public. D'un autre côté, moi, je vois un gros danger là.
Ça peut être un piège aussi.
De ne pas se réinventer. D'aller jouer dans des plates-bandes qu'on connaît bien, puis dans des recettes qu'on maîtrise. Voilà, à un moment donné, il peut y avoir un essoufflement aussi. Là.
Et là, le prochain projet, ça serait quoi? Parce que là, tu dis qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Ouais.
La table, cet automne, si tout va bien et tout ira bien, un nouvel album.
Okay.
Donc, un album mélange spoken word, chansons, des trucs qui flirtent même un peu plus avec le rap au travers. J'ai deux projets de romans en chantier, un projet de recueil. J'écris aussi pour plusieurs artistes là, cette année. J'ai travaillé beaucoup avec Florence Colus du Faux, Louis-Jean Cormier, entre autres. Puis, il y a d'autres artistes avec qui je collabore qui devraient sortir des albums dans l'année à venir. Donc, toujours de l'écriture. Si on propose d'autres projets en art visuel aussi trippant que celui du Cap avec moi-même, peut-être que je vais me commettre. Sinon, ben, c'est toujours les mots qui m'obsèdent et me hantent.
Est-ce que ça fait du bien de donner ces mots aux autres?
Ben oui.
Parce qu'on parle de chanteurs, là, donc c'est se plonger dans leur univers, en fait.
Ben oui, puis ça peut aller dans tous les sens. Parfois, on part d'une musique, on met des mots dessus. Parfois, on propose un texte, on met de la musique. Mais oui, c'est une expérience absolument exceptionnelle, puis bouleversante. L'image qui me vient en tête tout de suite, c'est Luce Dufault. Que je lui ai proposé un poème. Pour moi, je l'entendais d'une certaine façon. C'était presque récité. Puis finalement... chanson, puis avec sa voix, puis son intensité, puis elle est allée aussi dans une émotion différente de ce que moi j'avais en tête, et qui finalement fonctionne autant, sinon plus, puis là, c'est ça réinvente carrément le texte, ça l'amène complètement ailleurs, puis ça, c'est, oui, c'est vraiment trippant.
Est-ce que c'est touchant?
Ben oui, puis parce que c'est touchant de voir... des publics qui sont pas les nôtres, qui sont rejoints ouais. par ces chanteurs, ces chanteuses-là, qui finalement permettent à nos mots de toucher d'autres personnes qui n'étaient pas dans notre sphère immédiate à nous.
Et là, tu parles d'album pour l'automne. Est-ce que le travail, est-ce qu'il y a déjà des trucs d'enregistrés ou pas encore?
Oui, absolument. Okay. Oh, il y a quelques pièces enregistrées, puis des textes qui avancent. Parce que je veux pas trop avancer, mais ça va bon train. Puis jusqu'à maintenant, j'explore justement pour faire un lien avec ce qu'on disait de se réinventer. Tu sais, j'essaie d'explorer des nouvelles façons de dire, de déclamer, puis aussi des thèmes que j'ai moins abordés pour voilà, essayer de finalement me surprendre un peu moi-même à travers la démarche, parce que moi, c'est plus avec les romans en ce moment que je mets du beurre sur la table, mais comme artiste, j'ai envie d'aller repousser un peu mes limites. Donc, c'est un bon projet pour ça.
As-tu l'impression que quand les spectacles vont reprendre, on va savourer le privilège d'être sur une scène deux fois plus, même si on le savourait déjà?
Tellement. Puis avoir su qu'on couperait les ailes comme ça, déjà, je suis plutôt généreux en spectacle. Mon spectacle il est long, puis je vais avec des rappels et tout, mais je pense que je me serais éternisé un peu plus sur la scène encore. C'est vraiment intense. Je roulais deux, trois spectacles par semaine, puis là, du jour au lendemain, terminé, reste chez vous. C'est vraiment particulier comme impression quand t'as pas le temps de te préparer psychologiquement pour une retraite un peu forcée. Là, ça casse un beat, comme on pourrait dire.
David, si on veut suivre tes projets, est-ce qu'on va sur le web?
Oui, davidgoudreau.org. Sinon, Facebook, Instagram, Twitter, je suis un peu partout. Puis je m'amuse, là, je mets des poèmes, des réflexions, de l'humour. Je pense que j'ai un bon lien avec mes auditeurs et mes lecteurs, lectrices à travers les médias sociaux. Là, j'occupe ce territoire-là ces temps-ci.
David, merci beaucoup.
Ça a été un grand plaisir. Très belle entrevue. À bientôt.
Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.